Où en est-on en matière de législation bioéthique en France? Qu'est-ce que la loi permet ou ne permet pas? Pour comprendre toutes les modifications apportées au droit français par la loi de bioéthique de 2021, écoutez nos épisodes sur le sujet. Une introduction générale, suivie d'articles détaillant les différents axes de la loi. Premier épisode, l'assistance médicale à la procréation ou AMP. Dans ce premier épisode, nous allons voir ce que la loi de bioéthique de 2021 a changé concernant l'assistance médicale à la procréation en 5 points majeurs. Premier point, la technique de PMA est désormais disponible sans indication médicale. Deuxièmement, l'autoconservation des gamètes sans indication médicale est également instituée. Troisième point, l'élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a évidemment un impact sur la filiation des enfants. Quatrième point, des modifications ont aussi été apportées concernant l'anonymat des donneurs de gamètes et la recherche des origines. Enfin, cinquième point, la loi traite aussi de la question de la filiation des enfants nés par gestation par autrui à l'étranger. Premier point donc, la technique de PMA est désormais disponible sans indication médicale. L'abandon de l'indication médicale d'infertilité constatée pour l'utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Le recours à l'AMP est simplement conditionné à l'existence d'un projet parental. Médiatisée comme la PMA pour toutes, la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple de femmes. Le Code de la santé publique stipule désormais que « l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l'assistance médicale à la procréation ». Dans cette rédaction, on le voit bien, l'accent est mis sur le projet parental, mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. Pour mémoire, la rédaction qui était en vigueur depuis 2011, et qui a donc été abrogée, stipulait que « l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». L'extension de la PMA avec tiers donneur pour des femmes seules ou à deux a pour effet indéniable la suppression du père et de la lignée paternelle. Un décret paru en septembre 2021 fixe les conditions d'âge pour cet accès. Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire. Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son 60e anniversaire. Dans le cas d'une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. La loi a également supprimé l'interdiction d'une PMA avec double don de gamètes, c'est-à-dire quand un couple bénéficie à la fois d'un don d'ovocytes et d'un don de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait pas avoir recours à ce double don. Il s'agissait alors de maintenir autant que possible un lien génétique entre l'enfant et au moins l'un de ses parents. En cas de double infertilité, le couple pouvait demander à bénéficier d'un don d'embryon. Deuxième point, l'autoconservation des gamètes sans indication médicale est également instituée par cette loi. Selon l'Agence de la biomédecine, ABM, l'objectif de l'autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d'enfant devait nécessiter une assistance médicale à la procréation. L'ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle. L'indication n'est pas d'ordre médical, mais résulte d'un choix de la personne, c'est la nouveauté introduite par la loi de bioéthique de 2021. Le même décret de septembre 2021 a fixé des conditions d'âge pour cette autoconservation. Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à partir du 29e jusqu'à son 37e anniversaire, et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter du 29e jusqu'au 45e anniversaire. Les gamètes recueillis sont conservés dans des centres autorisés pour cette activité, et la loi prévoit que chaque année, la personne qui a procédé à cette conservation doit indiquer si elle souhaite les conserver, les utiliser en vue d'une AMP, en faire don à des personnes en attente d'un don de gamètes, en faire don à la recherche scientifique ou mettre fin à leur conservation. Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l'homme peut consentir à ce qu'une partie des spermatozoïdes recueillis soit donnée. En l'absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. Si les actes liés au recueil ou au prélèvement des gamètes sont pris en charge par l'assurance maladie, l'autoconservation est facturée 40,50 € par an. L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Troisième point, l'impact sur la filiation. Avant la loi de 2021, les techniques d'assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l'enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation, une mère et un père. Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. Cette démarche de consentement souligne la difficulté de ce type d'engendrement pour s'assurer que l'enfant ainsi conçu sera accueilli et élevé par un père et une mère pour pallier le manque existentiel d'un des parents biologiques. L'accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple de femmes, permis par la loi de 2021, impacte nécessairement ce modèle. La filiation devient principalement basée sur la volonté, consacrée par l'existence d'un projet parental et non plus un lien ou une réalité biologique. Il y a donc désormais trois cas de figure, les couples femmes-hommes, les femmes seules et les couples de femmes. Premier cas de figure, dans le cadre d'un couple femmes-hommes, les règles relatives à l'établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant. S'ils sont mariés, la filiation paternelle s'établit par la présomption de paternité. S'ils ne sont pas mariés, elle s'établit par la reconnaissance volontaire du père. Deuxième cas de figure, le cas d'une femme seule. Le recours à l'AMP implique dans ce cas un tiers donneur de sperme. La filiation de l'enfant est établie à l'égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d'adoption de l'enfant, idem si elle se marie avec une femme. Enfin, troisième cas de figure, dans le cas de deux femmes, mariées, paxées ou non, le recours à l'AMP implique également un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. Une reconnaissance conjointe anticipée notariée pour l'autre femme permet d'établir la filiation. En cas de non-remise de cette reconnaissance lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l'état civil qu'à la demande du procureur de la République. Et seule la femme qui a accouché aura l'autorité parentale sur l'enfant. L'Assemblée nationale n'a pas retenu la proposition du Sénat d'une reconnaissance par la voie déjà disponible de l'adoption. Aujourd'hui, des actes de naissance mentionnent donc deux femmes comme étant mères d'un enfant. Quatrième point, l'anonymat du donneur et la question des origines. La loi de 2021 comporte également un volet concernant l'accès aux origines pour les enfants conçus à partir d'un don de gamètes. Elle met fin à l'anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit au Code civil. Cet anonymat portait sur l'identité et sur des données dites non identifiantes qui sont ainsi définies par le Code de santé publique. Il s'agit de l'âge de la personne au moment du don, son état général psychologique et physique, tel que le donneur le décrit au moment du don, ses caractéristiques physiques, uniquement taille et poids au moment du don, coloration cutanée, aspect naturel des cheveux et des yeux, la situation familiale et professionnelle du donneur, uniquement le statut marital, le nombre d'enfants, le niveau d'études et la catégorie socio-professionnelle, le pays de naissance, et enfin les motivations du don rédigées par le donneur lui-même. Cet anonymat était requis à l'époque comme un corollaire de la gratuité du don et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. À l'épreuve du temps, cet anonymat n'a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu'ils sont devenus adultes. Cette recherche des origines met au jour un paradoxe intrinsèque à la PMA. D'un côté, les liens biologiques et génétiques sont passés sous silence dans la « fiction juridique ». C'est un terme qui est employé par les juristes. Cette fiction juridique de la filiation de l'enfant conçu par une PMA. Mais d'un autre côté, l'importance pour l'enfant de connaître ses origines, l'importance de l'hérédité biologique ne peut être niée au-delà des questions médicales. Une lignée génétique, c'est également une histoire familiale. Par ailleurs, le droit à connaître ses origines, dans la mesure du possible, est reconnu à l'enfant par l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies, une convention ratifiée par la France. Désormais, depuis la loi de 2021, les personnes nées de PMA peuvent donc, à leur majorité et à leur demande, faire une requête d'accès à l'identité du donneur, c'est-à-dire le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, ainsi qu'à ces données non identifiantes que nous venons de détailler. Une commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs est créée pour répondre à ces demandes. Elle est placée auprès du ministre chargé de la Santé et elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les démarches peuvent être effectuées depuis le 1er septembre 2022. L'effet de cette réforme n'est pas immédiat. Les premiers enfants nés en 2023 qui le demanderont pourront avoir accès à leurs origines uniquement à partir de 2041, sans que cela leur donne un droit à la relation avec le donneur. Pour les enfants nés sous le régime de la loi précédente, ils peuvent faire une demande et recevoir cette information si le donneur, quand il est retrouvé et contacté, l'accepte. Enfin, la loi de bioéthique, dans son chapitre sur l'assistance médicale à la procréation, aborde un cinquième point. Il s'agit de la filiation des enfants nés par gestation par autrui à l'étranger. La gestation par autrui, ou GPA, reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du Code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». La loi sur la bioéthique de 2021 et les débats qui l'ont accompagnée n'ont pas remis en cause cette interdiction. Rappelons déjà que la gestation par autrui instrumentalise le corps des femmes et fait de l'enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps. Des Français choisissent malgré tout d'avoir recours à la GPA à l'étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée. C'est ainsi que des demandes de transcription d'actes de naissance sont arrivées sur notre sol. Ces commanditaires de GPA ont contraint le droit français à évoluer ces dernières années. La Cour de cassation en était venue à autoriser la transcription intégrale de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une GPA réalisée à l'étranger, dès lors que les faits déclarés dans l'acte étaient conformes au droit étranger. C'est-à-dire, à déclarer comme mère la femme commanditaire de la GPA, qui n'a pas porté ni accouché de l'enfant, et à effacer de l'acte de naissance la mère qui a réellement porté et accouché de l'enfant en question. Les revendications des commanditaires sont allées jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci avait condamné la France, qui n'avait pas fait appel, signant là une absence de volonté politique de lutter réellement contre la GPA. Mais lors de la dernière révision de la loi de bioéthique, ce sujet a fait l'objet d'un amendement qui est venu casser et unifier la jurisprudence. Le Code civil est complété pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l'étranger doit être appréciée au regard de la loi française, qui interdit toujours les conventions de mère porteuse, Code civil, article 16.7, et qui, hormis les exceptions qu'elle détermine, attache la filiation maternelle à l'accouchement et ne permet pas, en dehors de l'adoption par un couple d'hommes, l'établissement d'une double filiation paternelle. Malgré des demandes et des amendements proposés pendant l'examen de la loi, certaines techniques d'assistance médicale à la procréation sont restées interdites. Ainsi, la PMA post-mortem, c'est-à-dire une PMA réalisée après le décès de l'un ou des deux membres du couple, grâce aux gamètes ou aux embryons qui sont conservés par congélation par ce couple. Deuxième méthode, toujours interdite, c'est la méthode dite ROPA, réception de l'ovocyte par le partenaire. Dans cette méthode, un ovocyte de l'une des femmes est prélevé, fécondé in vitro par un tiers donneur, avant d'être implanté dans l'utérus de l'autre femme. Merci d'avoir écouté cet article sur l'assistance médicale à la procréation. Prochain épisode, la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches.